trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Thierry Guille est à nos côtés, le président de Raymond James France. Bonsoir Thierry.
Bonsoir.
Merci d'être là. Merci à Hervé Gouletker, nous accompagne également. Bonsoir Hervé.
Bonsoir.
Vous êtes senior economic advisor d'Accuracy et Thomas Vey est également en notre compagnie. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Hervé.
Vous êtes le responsable fixed income chez Spirit Asset Management. La Chine qui repart donc pour un tour de stimulus, Hervé, avec ses propos, l'objectif tel qu'il est signalé par le gouverneur de la Banque centrale chinoise. Il s'agit de soutenir une croissance stable pour l'économie chinoise et de promouvoir un rebond modéré des prix.
Oui, ça tient plus de l'accompagnement conjoncturel que du stimulus, quoi. On voit bien les chiffres du mois d'août avaient été décevants, côté production, côté consommation et investissement. Ben voilà, on met un peu de stimulus. Alors, quand on parle de politique monétaire en Chine, il faut bien comprendre, il faut moins regarder le prix que le volume, donc les taux d'intérêt que les possibilités d'injection de crédit. Donc là, il y a une petite baisse des taux directeurs. Enfin, on est sur quelques, je sais pas, 50 ou 70 centimes sur plusieurs années. Donc en fait, ça va très lentement. La baisse des réserves obligatoires, ça fait plus de sens, surtout qu'en même temps, c'est accompagné de l'idée que les banques commerciales pourraient voir leur capital augmenter. L'État participerait d'augmentation de capital. Donc on voit bien qu'on pourrait mettre plus d'argent sur la table. Donc ça, c'est de l'accompagnement. N'empêche qu'il faut voir la toile de fond derrière. La toile de fond, c'est de la politique et de la politique économique, hein, c'est tout bête. Du côté de la politique, on reste avec une gestion très centralisée et avec comme moteur le secteur public. Il ne faut pas oublier cela, c'est pas très market-friendly, pour dire les choses. Et si on entre dans la politique économique, en fait, l'enjeu est plus dans la politique structurelle que dans la politique conjoncturelle. Et la politique structurelle, eh bien, elle rencontre vite des obstacles. La politique structurelle, c'est plus l'offre que la demande. Et du côté de la demande, c'est plus l'investissement que la consommation. Donc quand on voit le luxe français qui remonte suite à l'information du jour sur la Chine, c'est...
C'est un contresens, c'est un faux sens,
c'est
un contresens de marché.
C'est un contresens, à mon avis. Et en fait, revenons sur la politique structurelle. On va venir buter sur une chose, c'est que il y a des excédents de capacité partout. Derrière ces excédents de capacité, il y a des problèmes de bilan, non pas partout, mais dans de nombreux endroits. Et en fait, l'image qu'on doit avoir, ou la question qu'on doit se poser, est-ce que la récession de bilan du Japon de l'au-delà des années 80, est-ce que c'est un schéma qu'on doit utiliser pour la Chine aujourd'hui? Moi, j'aurais envie de dire qu'on est un peu dans ce sens-là. Donc en fait, oui, il y a un accompagnement conjoncturel sur une croissance faible, dans un environnement où il y a sans doute une politique structurelle qui connaît ses limites, dans un cadre plus général de politique chinoise, qui est quand même quelque chose qui est un peu orthogonal avec notre vision des choses.
J'entends, ce n'est pas un game changer sur l'histoire structurelle de la Chine devant nous, mais est-ce que c'est une bonne nouvelle, au moins sur le plan conjoncturel? Pas que pour la Chine, est-ce que c'est aussi une bonne nouvelle pour le reste de la planète sur le plan conjoncturel, d'avoir ce soutien? Alors, est-ce que ça peut libérer peut-être jusqu'à 150 milliards de liquidités? C'est les estimations qui sont faites aujourd'hui. Est-ce que c'est bon pour le reste du monde aussi?
Alors, si on veut attirer le chaland sur les actions chinoises, peut-être. Mais il me semble tout de même qu'on a été déçus, très déçus, oui, par le parcours des indices, au moins chinois, depuis un certain nombre d'années maintenant. Je ne suis pas sûr que là, ça soit un élément de changement. Quant à l'idée qu'on va avoir autour de 5% de croissance, un petit 5% de croissance, je crois que c'était le pari qui était fait par tout le monde. Donc en fait, bon, il y a eu ces chiffres d'août, il y a la réaction de la politique monétaire chinoise. Bon, c'est quand même pas une très grosse surprise. Donc, à mon avis, on va dire, évidemment, il y a les Américains qui baissent leurs taux, il y a les Européens qui baissent leurs taux, les Chinois participent du mouvement, et ça donne une idée de reflation. C'est une petite musique qu'on aime bien sur le marché, mais à mon avis, la contribution de la Chine à cette partition sera quand même modeste.
La Chine redevient pas un risque inflationniste aujourd'hui pour le monde et l'économie mondiale?
Non, on est en train de lutter contre la déflation en Chine.
Oui, d'accord. Thomas, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est vrai que la Banque Centrale Chinoise est très attentive aussi au mouvement sur les taux chinois. Le 10 ans chinois est à 2% quand même. Mmh. Enfin, je veux dire, pour donner quand même la perspective de... Mmh. du rendement qu'on a sur de la dette chinoise aujourd'hui, quoi. 2%, c'est faible, hein.
Mais avec une courbe qui est un peu plus normale que les courbes en zone occidentale. Le 2 ans est à 1,30, donc on a 70 points de base.
Il y a une pente, quoi.
On a une pente, on a une courbe, donc il peut avoir un peu d'attrait quand même.
C'est pas le signe d'une économie qui est très booming. Non,
c'est une signe, comme l'a dit Hervé, c'est une économie qui est en déflation, du moins en désinflation. Donc il n'y a pas un grand intérêt sur la zone, hein, surtout avec le risque de change qu'on prend quand on investit sur ce type de papier. Donc pour nous, je suis assez d'accord, hein. c'est une réaction de marché qui est, enfin, une réaction de la politique la politique monétaire chinoise, ouais. qui est là, mais qui n'est pas un gros game changer pour le marché des taux mondial.
Est-ce que la Chine se permet ça aujourd'hui? Parce qu'il y a ce mouvement aussi de baisse de taux, et sur le dollar notamment, ça vient une semaine après la baisse de la Fed, on aura l'occasion d'en reparler, mais est-ce qu'il y a l'idée d'une séquence qui permet aussi à la Chine de se soulager un peu de ce point de vue-là?
Ça peut expliquer, et ça l'explique sûrement, hein, ce qu'a fait les 50 points de base, on en parlera peut-être
un lien qu'on peut faire. Hein.
C'est le lien qu'on peut faire après la séquence entre la baisse des taux qui nous attend aux États-Unis et en Europe et le pseudo-mouvement en Chine, ça sera incomparable. On peut pas, on sera pas sur la même séquence, et déjà on part pas du même niveau.
Qu'est-ce que ça vous inspire, l'affaire chinoise, et comment ça se retrouve aussi dans des marchés comme le marché américain, qui est votre domaine de spécialité, Thierry, à travers des entreprises américaines. Quand on regarde les résultats des entreprises européennes, tous ceux qui sont exposés à la Chine sont obligés de constater qu'il n'y a que des mauvaises nouvelles encore aujourd'hui à prendre de ce point de vue-là.
Oui, c'est clair. Alors, pour dire un mot sur la baisse des taux américains qu'on a eu la semaine dernière, les fameux 50 BP. On ne
parle plus de la Chine.
Non, mais c'est-à-dire que l'impact chinois sur le marché américain, il est relativement faible. On connaît la politique des Américains, et là-dessus, il y a un poids commun entre Kamala Harris et Trump. C'est faire barrage, et dans leur programme qui est annoncé pour les élections de novembre prochain, c'est un point d'accord. Il n'y a pas de voiture électrique aux États-Unis chinoise, ou très peu. Donc là-dessus, je dirais que l'impact est relativement minimum. Et l'incidence macro, en tout cas, elle est relativement faible.
Non, mais il y a des boîtes américaines qui continuent quand même d'opérer un peu en Chine et d'avoir des clients en Chine. Ça peut arriver encore.
Quoi. Oui, ça peut arriver. Mais je dirais, ramener à l'échelle du... Même quand on prend les grands acteurs du SPI, c'est relativement marginal. Ouais.
Et c'est une bonne nouvelle globale de voir la Chine quand même répondre et réagir à cette faiblesse. Alors, il y a la partie structurelle, il y a aussi peut-être quand même l'idée que 5% de croissance, ce serait bien à atteindre cette année.
Est-ce que un coup de pouce via une baisse des taux. Enfin, j'écoutais à l'instant ce qui était dit, c'est un marché que moi je ne maîtrise pas sur le marché chinois, mais en tout cas, le coup de pouce est toujours le bienvenu. C'est un phénomène qu'on observe partout, et que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. Et ça va dans le bon sens. Après, reste à savoir pourquoi baisse des taux. On sait que en Chine, si j'ai bien saisi, la croissance est faible, pour ne pas dire anémique, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Ouais. Encore une fois, on est sur une croissance qui reste relativement soutenue, avec un taux de chômage qui est excessivement bas, et les causes sont pas les mêmes.
Bon, alors quelles sont les questions là, qui reviennent quelques jours après la baisse de taux de la Fed de 50 points de base dans votre esprit, Thierry?
Alors,
c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle?
Les 50 points de base, une bonne. Et je pense qu'il n'y avait pas d'alternative pour la Fed, parce qu'on a reproché à Powell, il y a un peu plus de 2 ans, lorsqu'il a amorcé le cycle de hausse des taux, d'être un petit peu en retard. Il ne fallait pas se faire prendre 2 fois. Donc très clairement, comme dit notre stratégiste, il y a une course qui a été gagnée par la Fed. Cette course a consisté, sur les 2 ans et demi passés, à monter les taux pour tuer l'inflation, et la bataille est gagnée sans plonger le pays en récession. Il n'y a pas de récession aux États-Unis, probablement il n'y en aura pas. Là, on est maintenant dans le deuxième aspect, c'est faire baisser les taux et éviter que l'économie américaine mette un genou à terre. Quand on regarde les grandes données macro US, elles sont bonnes. Le taux de chômage américain est à 4,2. Ça fait presque 40 mois consécutifs qu'on a un taux de chômage en dessous de 5%. Il n'y a pas beaucoup de pertes dans l'histoire américaine où ça a été le cas. Croissance de PIB qui est assez soutenue. Donc ça va dans le bon sens, je pense que la Fed fait le boulot.
et elle est encore dans le bon timing. Elle n'est pas en retard là, de ce point de vue-là.
Aujourd'hui. Non, je pense que l'idée de faire 50 BP, c'était d'envoyer un signal au marché. Après, elle peut piloter. C'est-à-dire, mais si elle avait fait l'inverse, ça aurait été maladroit.
Commencer par 25, ah oui, c'était prendre un risque.
Je pense que c'était le risque de devoir faire 50 BP de début novembre, juste après les élections, ou au mois de décembre. Et puis, alors après, les paris sur 2025 me font toujours un peu sourire, parce qu'on ne sait pas exactement à quelle sauce on va être mangé en termes de croissance ou autre. La Fed, j'ai coutume de dire à mes clients, ça ne sert à rien de faire des paris sur... La Fed fera ce qu'il y a à faire. Elle fera 25 s'il faut, elle fera 50 s'il faut, elle peut le faire entre deux réunions, pas. Elle fera ce qu'il y a à faire. Et Powell l'a montré. Voilà. Donc quand on parie aujourd'hui sur des taux qui devraient baisser de 200 BP l'année prochaine, il y a de l'eau qui va couler sous les ponts.
Bah, elle-même, la Fed, projette idée-là aussi au marché. Thomas, effectivement, comment vous avez compris le message envoyé par Powell, est-ce que ça vous paraît approprié à la situation? Et est-ce que pour les marchés globaux, est-ce que oui, c'est une bonne nouvelle?
Je suis d'accord, hein, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle pour les marchés globaux de baisser de 50 points de base, de commencer de baisser de 50 points de base. Après, c'est assez inédit quand même, hein, de baisser de 50 points de base dans une situation économique qui n'est pas une récession. Hein, 2001-2007, c'était des cuts de 50 points de base pour commencer le cycle, mais on était dans une situation économique qui était totalement différente. Ouais. Là, commencer par 50 points de base avec 2% de croissance, un taux de chômage à 4,2, bon, qui est quand même, ceci dit, en forte remontée, hein, il est passé 3,4 à 4,2 en quelques mois, il faudra quand même suivre la trajectoire avec prudence pour voir le futur, mais pour le moment c'est vrai que tous les indicateurs économiques sont au vert, et donc la Fed fait un cut préventif plutôt qu'un cut réactif. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle dans ce sens. Après, ce qui a été important pour nous à surveiller durant ce meeting de la Fed, c'est les dots, bien évidemment.
Donc les projections au niveau des taux directeurs qui sont réalisés par tous les membres du FOMC.
C'est ça, exactement. Donc les 19 membres, il y en a 12 votants, ouais. 19 qui
7 non-votants, 12 votants.
Voilà, exactement. Ouais, c'est ça. Ça tourne des fois dans les non-votants.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Donc dans les 19, donc... Pour le moment, la médiane est encore à 2 baisses cette année, donc 50 points de base, 2 fois 25 peut-être. Mais quand on regarde le split, hein, la divergence entre ces 19 membres, il y en a quand même 9, donc quasiment la moitié, hein, 9 des 19 qui envisagent seulement une baisse ou moins, ou plus de baisse, restez sur les niveaux-là, et 10 qui envisagent 2 ou
voire plus.
Donc globalement, le comité est assez partagé, et malgré, et ça c'était aussi intéressant, c'est la première fois depuis 2005 où il y a eu une dissidence sur le vote, hein. Il y a Michel Bowman qui n'a pas voté pour la baisse de 50 points de base
au sein du board, hein. du comité de direction. Exactement. Du directoire,
c'est ça.
De la réserve fédérale américaine.
Exactement.
On m'a dit c'est la première dissidence au quiche depuis 94.
C'est ça, ouais, exactement. Mais depuis 2005, c'est tout compris. Ouais, ce que je voulais dire à ce niveau-là, c'est 9 sur 19. Ah non, j'étais sur la dissidence sur Bowman. Donc, qui est 9 sur 19 qui votent pour seulement encore une baisse ou pas de baisse. Je pense que, et on le verra dans les minutes, le débat était plus serré que ce que ça laisse transparaître. Donc, on verra.
Ouais.
Donc, le 50 n'était, à mon sens, pas certain. Ils ont quand même débattu, à mon avis, pour 50 ou 25. Je pense que c'est la bonne décision, mais ça a été débattu.
Bon, et puis quelques jours avant, le marché a dit 50, ce serait bien. Ça pèse aussi, peut-être, dans la prise de décision. À partir du moment où le marché est dans un camp, il faut quand même en tenir compte, j'imagine, quand on délivre une décision de
politique. C'est sûr, il y avait 65%, hein, les probabilités.
Oui.
65% du marché qui était pour 50, le reste pour 25. Après, quand on lit les analystes et les économistes, c'était beaucoup plus...
Les économistes étaient réfractaires à 50.
Ils étaient réfractaires à 50. Donc la Fed a suivi un petit peu le marché. C'est pas la Fed qui a suivi le marché, mais la Fed c'est couplé au marché.
Je cite toujours l'économiste venu nous voir la semaine dernière avant la décision de la Fed et qui nous disait sur ce plateau, parfois dans la vie, il vaut mieux décevoir les économistes que les marchés. La Fed n'a pas déçu les marchés la semaine dernière. Hervé, justement, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? À la fois les 50 points de base de la Fed, dans le contexte économique qu'on connaît aux États-Unis, et de voir la réaction de marché qui s'en est suivie.
Moi, je pense qu'il faut d'abord partir de la volatilité des chiffres macroéconomiques, de la volatilité des marchés. Il faut se souvenir que fin juillet, début août, il y avait un émoi sur les marchés en disant « flûte, est-ce qu'on n'est pas en train de basculer vers quelque chose de plus compliqué ?» Donc en fait, on est dans un environnement compliqué, et comme il est compliqué, les avis ne sont pas très bien ancrés. Ce qu'on croit aujourd'hui ne sera peut-être pas ce que l'on croit demain. Maintenant, pour revenir à la Fed, moi, je crois qu'elle a fait 50 centimes pour deux raisons. La première, la crainte d'être un peu en retard. La BCE avait osé bouger avant elle. Est-ce que c'était un signal comme quoi, voilà, ils avaient tardé un petit peu? Je crois que il y avait l'idée de se rattraper tout de même dans les 50 centimes. Ça fait partie du non-dit. Et puis, je crois qu'il y avait l'idée que dans le contexte actuel, avec de la volatilité économique, de la volatilité politique, mettre de la volatilité de marché, c'était vraiment pas une bonne idée. Quand on voyait, par exemple, le marché des futurs sur les Fed Funds, donc sur le taux directeur américain, qui était quand même très, très engagé dans une hausse de 50 centimes, prendre le risque de décevoir avec peut-être des effets de contamination à d'autres compartiments du marché, je crois que c'est un risque qu'ils ne voulaient pas prendre.
Là, ils ont réduit l'incertitude, vous dites là.
Non, je ne dis pas qu'ils ont réduit, ils ne voulaient pas ajouter de l'incertitude à l'incertitude dans un contexte un peu particulier. Donc moi, je pense que, en fait, ce n'est pas une analyse extrêmement puissante qui les a poussés à cela, c'est contextuel. Contextuel, je ne veux pas me prendre une baffe en étant en retard et je ne veux pas créer de la volatilité trop forte sur le marché.
Et j'ai un niveau de restriction monétaire, même par rapport à une économie qui se tient bien, qui peut justifier que je ne prenne pas trop de risques en enlevant 50 points de base d'un coup.
La restriction monétaire, dans l'absolu, on a envie de le dire, mais quand on voit une croissance qui est à 2%, ce qui doit être au-delà du potentiel, quand on voit un taux de chômage qui est quand même relativement bas, même s'il monte, donc il faut faire attention. Donc en fait, c'est restrictif, mais globalement, ça n'empêche pas de fonctionner. Donc il baisse, il se donne comme objectif d'aller vers 3, qui doit être le taux neutre à peu près du moment. Le marché partage à peu près l'idée. Il y a 200 points de base à venir. Enfin, maintenant, c'est 100, 150 à venir d'ici à la fin de l'année prochaine. Tout ce petit monde est d'accord. Moi, je veux simplement dire que, vous avez raison, Thierry, il va se passer plein de choses devant.
Oui.
Et que donc, ces anticipations valent pour prendre des positions aujourd'hui. Est-ce qu'il faut avoir des vues stratégiques en fonction de ce scénario? On aura plein de temps pour le revoir et il sera revu.
Oui, bien sûr, mais ça fait partie du job.
Voilà, exactement.
Travailler sur des scénarios. Thierry.
Si je peux me permettre, pour rebondir, on va faire un petit recul en arrière. Souvenez-vous, décembre dernier, on pariait sur 6 baisses de taux en 2024. Moi, je me souviens être allé à la conférence de notre société, enfin de Raymond James, au mois de mars à Orlando, on en avait parlé, et j'étais bluffé par la certitude des marges des sociétés américaines. Ouais. Je suis rentré en me disant il n'y aura pas autant de baisses de taux, voire on peut ne pas en avoir. Et c'est un consensus qui a fait son chemin jusqu'au printemps dernier, avril-mai. Au mois de juillet, on a eu ce mauvais chiffre l'ISM, voilà. Ouais. Et c'était revu, on n'a pas d'aide. Donc, on a eu moins 6, il y en aura plus, moins 2. Vous voyez, donc, c'est compliqué. Je veux dire, la situation est complexe.
Oui, bien sûr, non, mais la lecture du cycle, la lecture des données est compliquée.
Il faut aller naviguer dedans.
Les effets d'inertie, de relance, de stimulus, etc., ont quand même brouillé la lecture de ces dernières années. Oui, Thomas.
Et l'intégralité de la courbe réagit. C'est ça qui est intéressant. C'est pas que la partie courte et les Fed Funds, les futurs Fed Funds. Sur Fed Funds qui réagissent, le 10 ans réagit fort sur, si on prend le même...
Il joue dans quel sens le 10 ans? Il monte le taux à 10 ans monte.
Non, je parlais sur ce cycle, un décembre jusqu'à maintenant. Les taux à 10 ans ont aussi beaucoup bougé alors qu'ils auraient pu envisager une vue un peu plus long terme et une pente, une courbe qui se reprend. Mais ça n'a pas été le cas. Ils ont baissé fort, après ça a monté un peu, et là, sur le 50 points de base, ça remonte. Ouais. Et c'est assez logique. C'est assez logique et ça prouve que Powell a été quand même bon, parce que le risque aussi de baisser de 50 points de base, il fallait bien expliquer le 50 points de base pour enlever de la volatilité.
C'est
sur
un bon signal qu'on ait quand même cette pontification, y compris sur la partie longue.
Bien sûr, ça veut dire que le marché achète le soft landing. Si le marché achetait le fait que Powell cut de 50 parce qu'il y a un cadavre dans le placard, les taux longs baisseraient.
Piquerait du nez. Sur la partie action, qu'est-ce que ça change? Enfin, qu'est-ce qui a changé cet été sur le marché action américain? Qu'est-ce qui n'a pas changé? Et la perspective d'avoir quand même un cycle de baisse de taux, on verra jusqu'où ces baisses de taux nous emmènent, mais il y a quand même quelque chose d'un peu global qui se met en place. Qu'est-ce que ça change dans l'investissement action pour vous aujourd'hui, Thierry?
Alors, il y a pas mal de choses qui ont changé. Ouais. On a eu des marchés, si on refait encore une fois un petit retour en arrière, qui était assez directionnel. Je dirais pas que c'était simple, mais je dirais 2023 et début 2024. 2023, c'est les Magnific 7. Voilà, c'est un marché très concentré. 2024, c'est un marché moins Magnific 7 que beaucoup plus la partie semi-conducteur, Nvidia en tête. Et en fait, il y a eu une bascule qui s'est vraiment opérée à partir des résultats du Q2 qu'on a eu juillet et qui entraînait beaucoup de volatilité. Le précédent record du SPI 500, c'était globalement mi-juillet dernier. On a eu toute cette volatilité qui était exacerbée pendant les mois d'été avec une rotation sectorielle qui était globalement la bienvenue. D'abord, ça permet d'aller trouver des opportunités parce qu'on finit, par manquer d'idées.
Ben, bien sûr.
Les mêmes idées.
Ben, quand il n'y en a plus qu'une, oui.
Ça devient compliqué. Et Nvidia, au pire, à un moment donné, a lâché plus de 30%. Donc, il fallait trouver des alternatives. Le marché s'est reconstruit un petit peu depuis la fin août, début septembre. On a remis un peu de risque en revenant un petit peu sur la tech. Mais globalement, quand vous regardez un indice qui est l'indice standard pour 500 Equal Weight, qui permet de décorréler le marché de la capi des valeurs, il est très bien. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Vous avez presque 80, c'est 77% en date de la semaine dernière, pourcentage de titres du SPI 500 qui sont au-dessus de leur moyenne mobile de 100 jours. Ça veut dire que la rotation, elle est là. Le seul peut-être bémol qu'on peut mettre à court terme, c'est sur les ce qui a marché cet été, c'était essentiellement deux choses. D'abord, une approche value et puis une approche un peu défensive. Ça peut paraître un petit peu pas antinomique, mais presque. Et en fait, on se rend compte qu'à court terme, il y a quatre secteurs qui ont un peu flambé. C'est l'immobilier, on a eu la santé, on a eu les staples
et les services aux collectivités.
Voilà, absolument. Ouais, ça, si j'étais... Enfin, je pense qu'il faut que ça marque le pas.
L'étape
suivante, elle est à écrire. Je pense qu'il faut remettre un peu de risque. Je pense que la baisse des taux est venue le montrer. Sur le marché américain, vous l'avez souligné en préambule, on a cassé la zone des précédents records, les 5620, on est à plus de 5007. Et selon nos analystes, on verra si on a raison dans quelques semaines. L'objectif suivant, c'est à peu près 5950. Il y a encore 3 à 4% à aller chercher sur une fin d'année.
6000, quoi.
Globalement. Oui. On est dans le fine-tuning, c'est comme la Fed. Non, mais peut-être qu'on aura de la volatilité.
C'est l'idée d'un... Enfin, parce que je lis partout, tiens, c'est nouveau cycle haussier. Bon, déjà, je sais pas quand est-ce que le cycle haussier s'est arrêté, parce que enfin, ça fait que monter depuis mars 2020. Enfin, grosso modo, il y a eu des hauts et des bas, mais je veux dire... Il y a l'idée d'un nouveau cycle, enfin, ou quelque chose d'une nouvelle séquence de marché avec peut-être des gagnants différents.
Oui, peut-être avec des gagnants différents. Les Américains emploient le terme de barbell approach. Ça veut dire dedans, il faut un peu tout. Donc, en gros, on va garder une partie de la tech. Le thème de l'IA est là pour durer. Alors peut-être qu'on va pas jouer 10 acteurs, mais auprès de nos clients, on leur suggère de réduire, en quelque sorte, faire des choix, sans s'interdire d'aller chercher alors sur d'autres aspects de la cote, d'une part, et peut-être qu'on sera amené à en parler aussi sur peut-être un univers qu'on regarde et on l'a souvent évoqué ensemble ces derniers mois. Je pensais que c'était prématuré. Je pense qu'on se rapproche du moment donné où il va falloir y aller. C'est l'univers des small caps sur le marché américain parce qu'il faut deux ingrédients à nos yeux. C'est la baisse des taux, on l'a. Et l'autre aspect, c'est un retour de la profitabilité. Ça, c'est un peu plus long. Les boîtes de small cap, comme partout dans le monde, sont plus leveragées, plus endettées. Voilà. Mais il faut qu'il y ait ce point d'inflexion et ça, on ne l'a pas encore totalement.
Ah bon ?
On peut l'avoir, oui.
Alors... Bah, ceux qui y sont allés sur les small caps US, en tout cas, en début de trimestre. Ils sont contents sur le trimestre. Là.
Voilà. Alors, ils sont contents. La question, c'est est-ce que c'est un phénomène de quelques mois ? Souvenez-vous, l'année dernière, lorsqu'on a évoqué, je reviens encore une fois un petit peu en arrière, en décembre dernier, et qu'on avait le scénario de 6 baisses de taux, parce que les données macro étaient faibles, on a eu pendant 2-3 mois une surperf des boîtes de small cap. Et ça a fait long feu parce que les 6 premiers mois de l'année, c'était terminé. Donc là, il ne faut pas se tromper. Moi, la question qui m'intéresse, c'est est-ce que je vais repartir dans un cycle, que je m'en souviens très bien, c'est 2001-2007, où pendant 6 ans, ce qui a payé à l'époque, après le crack du Nasdaq, c'était l'univers value, l'univers small cap. Ouais. Et c'est ça que, en fait, parce que les cycles peuvent être...
Le vrai grand mouvement possible, s'il doit y en avoir un, c'est plus celui-là que vous cherchez à chasser aujourd'hui, en tout cas à identifier aujourd'hui.
Oui.
D'accord. Sur le plan de l'investissement obligataire, qu'est-ce que ça change ? Enfin, l'idée de ce cycle de baisse de taux, qu'est-ce que ça implique pour les stratégies obligataires aujourd'hui, Thomas ?
Il y a beaucoup qui est déjà dans le marché. Ça, c'est la grande problématique.
Ça va vite, hein.
Ça va très vite. Hein. Il a été beaucoup plus vite que la Fed, hein, comme d'habitude. La Fed commence à combler le retard, mais au niveau des projections Fed Funds, elle a même un peu de retard. On a dit qu'il s'était plus ou moins calé, mais le marché en anticipe une de plus de baisse de taux cette année, deux baisses de plus l'année prochaine. Après, ce qui m'intéresse quand on regarde les marchés obligataires, je ne parle pas du crédit, je reste juste sur les taux, hein, c'est les courbes, les pentes. Et effectivement, les pentes restent toujours plates. Ça se repentifie, c'est normal. La Fed est en train d'enclencher son cycle de baisse. Mais actuellement, on est à 20 points de base entre les taux à 10 ans et le taux à 2 ans. ce qui m'intéresse le plus, parce que c'est souvent celui-là qui est cité, c'est regarder le taux à 10 ans et le taux à 3 mois.
3 mois.
Voilà.
Là, c'est négatif encore.
Et là, on est encore négatif de 130 points de base. 130 points de base. La moyenne, vous savez, elle a combien de, entre le 10 ans et le 30 ans, la moyenne historique depuis 70, elle est à 100 points de base.
D'accord.
Donc on a 230 points de base à faire avant de revenir à la moyenne. Ouais. 230 points de base avec un taux de 10 ans à 3,80, ça vous fait, ça vous fait ramener les taux directeurs.
C'est, oui, bien sûr.
C'est,
oui, oui.
C'est le 10 ans est déjà.
Très, très bas, oui.
Le 10 ans est déjà. Assez cher, si on est dans le scénario
si du soft planning. Si voilà. On n'est pas en récession.
Si on est dans le scénario du soft planning.
Très clair. Hein,
voilà.
Très clair.
Donc,
c'est pas sur les parties longues
qu'il y a beaucoup de choses à faire encore aujourd'hui. On est prudent sur les parties longues. Le 2-5 ans reste le sweet spot, je pense, actuellement aux US. Aussi en Europe, parce que ce que je viens de dire aux US est complètement vrai et encore plus vrai.
Ouais.
En Europe, si on prend l'Allemagne comme référent, les courbes seraient encore plus inversées.
On n'a même pas cette pente de 20 points de base encore aujourd'hui.
Non. Et puis aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est parce que ce qu'on pourrait dire aussi, c'est si on part en récession, les parties longues de courbe peuvent jouer leur rôle de,
refuge.
De sécurité, flight to quality, de valeur refuge. Ça jouera, mais ça ne va pas le jouer très longtemps. Pourquoi ? Parce que on voit aussi que les tendances des courbes, quand il y a ces récessions, donc 2000, 2007, toutes les dernières grosses récessions, les courbes se repentifient, mais beaucoup plus violemment que la moyenne. Le 10 ans, 3 mois, c'est 350 points de base.
Il y a au moment de la récession, d'ailleurs, qu'on voit ce mouvement de repentification très violent.
Donc, quand je vous dis 10 ans US, 3 mois, 350 points de base sur les mouvements violents. On est à 3,70 sur le 10 ans US. Ça voudrait dire que les taux US reviennent à zéro. Voilà. Donc, il n'y a plus grand-chose à jouer sur ces parties de courbes-là.
Avec des déficits à 10%.
Ah, bah ça, j'en parle même pas.
Non, mais voilà, mais oui,
j'en parle même pas.
Marché obligataire, le factorise, j'imagine, un minimum.
Bien évidemment, ça, là, je parle.
Comment est-ce qu'on relancerait l'économie en récession avec 6% de déficit?
Ah, bah là.
Hervé, je veux bien qu'on. Pardon, on bascule côté européen parce que je veux. Oui. Je veux qu'on parle de la France, ou en tout cas du positionnement de la France et du statut de l'OAT, même pour dire les choses précisément, par rapport au pair. Allemand d'un côté, certes, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'autre partie du peloton. C'est-à-dire de voir que la France, déjà, a un coût de financement à 10 ans qui est plus élevé que le Portugal et qui est équivalent, aujourd'hui où on se parle, à celui de l'Espagne.
Oui. Vous avez trois éléments à prendre en compte. Vous avez à prendre en compte l'état des finances publiques, vous avez à prendre en compte la dynamique de la croissance, et vous avez à prendre en compte la stabilité politique. Si on fait une comparaison toute bête entre la France et ses pairs, alors les anciens, les nouveaux, je ne sais pas très bien. Ce qui est sûr, c'est qu'en matière de finances publiques, on est en retard. Qu'on prenne le déficit primaire, hors la charge d'intérêt, qu'on prenne le déficit après correction du cycle, donc ce qu'on appelle le solde structurel primaire, alors pour se débarrasser aussi de la charge d'intérêt, on est plus mauvais que les autres. Le solde structurel primaire, il doit être entre 3 et 4 points de produit intérieur, là où les petits camarades sont autour de 1.
Ouais.
Donc en fait, on est plus mal, donc que l'on nous sanctionne de ce côté-là, parce qu'on a tarder à s'y mettre, c'est un peu normal. Après, du côté de la croissance économique, bon, c'est pas terrible chez nous, dans un environnement européen qui est pas terrible. Alors, l'Espagne donne l'impression de s'en sortir. On revoit la hausse de la croissance espagnole.
2,7% attendu pour l'Espagne cette année.
Et le marché est très sensible à cela. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est la qualité de cette croissance. La qualité de la croissance espagnole n'a jamais été très bonne. Même si, sur le fond, au niveau manufacturier, il y a une lente amélioration. Mais on a eu l'immobilier par le passé et on sait comment ça a fini. Aujourd'hui, il y a un vrai engouement pour le tourisme. On doit avoir du surtourisme en Espagne, vraisemblablement. Ça pousse la croissance à la hausse. Ça, c'est du côté de la demande. N'oublions pas que du côté de l'offre, la migration vers l'Espagne, c'est aussi du travail. Malgré un taux de chômage extrêmement élevé, ça participe tout de même à une dynamique côté de l'offre. Est-ce qu'on doit parier sur le tourisme d'une part, sur les flux de migration de l'autre ? Donc, l'Espagne s'en sort bien aujourd'hui, et j'aurais envie de dire que de ce côté-là, peut-être qu'on extrapole de trop, c'est-à-dire qu'il y a un côté facial à regarder les chiffres, derrière, c'est peut-être moins bon. Et puis, du côté de la politique, et ça, c'est vraiment le côté nouveau au détriment de la France, c'est que la France était considérée comme politiquement stable, les fameuses institutions de la Ve République, et là, brusquement, ça devient instable, au point tel que, je ne dis pas qu'on est en train de trouver que la politique espagnole est stable, elle est instable maintenant depuis 4 ans ou 5 ans, quelque chose comme ça, peut-être un petit peu plus, mais voilà. Donc, en France, on pâtit un peu de tout ça. Alors, c'est, d'un côté, c'est normal. De l'autre côté, ben, ça doit être une invite à faire des réformes, c'est-à-dire à remettre de l'ordre dans nos comptes publics. On ne sait pas très bien comment on va faire, mais il va falloir le faire. Et puis du côté de l'économie aussi, quoi. Il y a sans doute des choses à faire. Donc c'est un début de sanction. Il faut que ça soit écouté par tout le monde parce que ce n'est qu'un début, continuons-le. Enfin voilà quoi.
Oui, j'entends.
Il y a un petit truc comme ça derrière. Et donc il faut être attentif. Les marchés peuvent être injustes parfois, mais là il y a quand même une part de vrai.
Oui. Puis je trouve qu'ils sont certes très vigilants, mais qu'ils sont relativement sage aussi vis-à-vis de la France.
On pourrait être à 100 points de base sans difficulté.
Oui, c'est ça. Et dans l'environnement actuel, sans que rien n'ait changé dans le paysage politique français ou autre. Moment à la Truss ou pas comment, enfin, tous les marchés obligataires oui, non, personne n'espère, je pense. Et dans les chancelleries, j'espère que la leçon a été bien retenue de ce point de vue-là. Mais c'est l'exemple qui revient 2 ans après, régulièrement, pour évoquer des pays européens comme la France, mais pour évoquer aussi la situation américaine avec un risque politique post 5 novembre.
Non, clairement, bon, pour la France, c'est assez justifié. 80 points de base, on est sur des niveaux bon, qui sont certes plus hauts que la moyenne, mais qui ne sont pas non plus exceptionnels compte tenu de la situation. Hein. Aller toucher les 100, même au-delà de 100 points de base, à très court terme, quand je dis à très court terme, c'est bien...
Sur un
budget qui doit bientôt arriver, on va voir comment il va arriver, c'est fortement possible. Après, la comparaison avec l'Espagne, c'est anecdotique, j'ai envie de dire, c'est un petit peu des vases communicants aussi, hein. Ça sort peut-être un petit peu de la France pour rentrer sur
enfin, c'est anecdotique quand on va se retrouver derrière le Portugal, derrière l'Espagne, à un moment, c'est plus statut cœur ou semi-cœur que la France détenait, quoi.
Ouais, mais c'est normal que le spread. C'est normal que le spread augmente avec en prenant en compte les chiffres du pays. Après sur les États-Unis, bah on verra bien aussi l'élection présidentielle. Je vais pas donner d'avis là-dessus. Ça reste à mon avis extrêmement serré et puis c'est très flou hein, pour le moment.
Il y a encore quelques semaines, il n'y avait plus match.
Il y a clairement match et puis c'est très difficile à voir les impacts sur le marché notamment obligataire avec l'élection.
Sans Joe Biden, Donald Trump est orphelin. Ce qu'on m'a dit hier.
Ah tiens, c'est amusant, oui.
Ah, mais c'est dur pour lui maintenant.
Oui, bien sûr, c'est dur. Bah, il y a un
rattrapage. Les stratèges.
On avait notre call de stratégie justement juste avant que je vienne vous voir et nous notre scénario depuis quelques mois. Alors d'abord on est vraiment sur un 50-50 déjà niveau de l'élection présidentielle. Voilà, là où il y a.
Mais c'est ce que je dis. Il y a match. Il y a quelques semaines en arrière ou quelques mois. Le match n'était pas si évident que ça.
Voilà, notre analyse politique entre Trump et Washington Biden. Donnait un 60-40 Trump, on est sur du 50-50. Après, ça sera probablement pas un sweep, au contraire, ça sera une espèce de cohabitation, avec d'une part, comme vous le savez, le Sénat est réélu par tiers et la Chambre des représentants en intégralité. Notre pari, c'est qu'en fait, comme il y a plus de sièges à renouveler au niveau du Sénat, sur les 34 sièges, il y en a 23 de mémoire. Pour les démocrates, ils ont plus à perdre. Donc, on devrait basculer sur un Sénat Chambre haute républicaine. À l'inverse, il y a des chances que les démocrates conservent pas parce qu'ils l'ont pas, gagnent la chambre basse. Voilà. Ça, c'est sur le scénario. On verra. Donc.
Ça nous dit quoi ? Ça limite considérablement les marges de manœuvre, les politiques un peu trop disruptives aux yeux des marchés, des investisseurs. Ça permet de maintenir le système dans un état prévisible.
Oui, je pense que quelque part, ça rassure un peu comme des cohabitations, même dans n'importe quel pays, lorsqu'on sait que le pouvoir est tenu un petit peu par deux forces qui vont devoir presque travailler ensemble, même si en France, ça reste encore à prouver.
On apprend.
Mais en général, ça peut rassurer, ça évite des dérapages. Et avec Trump, c'est l'évidence même. Voilà, il va encore baisser les impôts. Je veux dire, Trump, ça se traduit par des gonflements de déficit, donc derrière probablement des hausses de taux. Voilà, c'est très clairement le risque. Kamala Harris, pour l'instant, elle a une lune de miel en août depuis son élection. On est quasiment fin septembre. Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, ça tient toujours pour l'instant. Voilà. Et quand on regarde, j'ai regardé un quintéret tout à l'heure, il y a entre 6 et 7 États swing states, très clairement fin juin, et encore plus après la tentative d'assassinat de Trump, il gagnait dans les 6 ou 7. Aujourd'hui, on est sur du 3 partout ou 4 à 3. Donc il y a des bascules voilà, qui s'opèrent.
Avec un budget de campagne démocrate qui n'a plus rien à voir avec ce que Trump peut avoir aujourd'hui. Enfin, là, il y a deux dimensions. Kamala Harris peut dépenser beaucoup plus que Trump dans les états clés.
Oui, elle a récupéré sur le vote féminin, elle a récupéré sur le vote noir, elle a récupéré beaucoup de gens.
Et le marché a compris que Kamala Harris n'était pas forcément positif pour les bénéfices par action des entreprises, par exemple.
Oui,
on verra ça plus tard.
Alors. L'impact sur les bénéfices, les faire repasser.
Parce qu'on a beaucoup parlé des Trump trades, par exemple. Le Kamala trade, ça n'a pas effrayé le marché, quoi.
Non, ça aura un impact, mais bon, souvenez-vous, en 2000, quand Trump était élu, c'était en 2016, les Américains avaient le taux d'impôt société le plus élevé de l'OCDE. C'est-à-dire que vous aviez le taux fédéral.
D'accord,
taux
oui.
Et j'étais étonné, j'ai relu deux fois la nouvelle, parce que c'était plus élevé que la France. C'est pas toujours facile de trouver des pays qui font pire que nous.
C'était pas le taux effectif payé non plus, mais oui.
Il l'a fait baisser à 21. Éventuellement, il veut l'amener à 20, et voire même à 15 pour ceux qui produisent localement. Là où Kamala arrive, il va faire monter à 27. D'abord, il faudra le faire valider. On verra en fonction du vote des chambres. Donc c'est pas encore fait, mais il y aura probablement un lagging de 9 à 12 mois avant que ce soit mis en place. Et ça aura un impact sur les. Oui, ça sera une moins bonne nouvelle. Mais pas de remise en cause de la tendance. Parce que c'est un taux facial, mais derrière, il y a beaucoup de capacité à...
D'ingénierie.
Oui.
Fiscale.
Oui. Ça, d'imagination.
Sans limite. Oui, non, mais ça, bien sûr. Bon, sur l'enjeu de l'élection américaine, Hervé, qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour vous ? On ne s'est pas revu ici depuis le début de l'été, maintenant. Hein. Non, c'était un monde encore différent.
Je pense que l'essentiel a été dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un jeu ouvert, alors qu'il ne le semblait pas avant... que Biden renonce. Bon, il faut quand même faire attention aussi, c'est une élection à deux tours. Hein. Donc, en fait, en fonction de ce qui va se passer dans ces fameux swing states, on peut avoir une majorité des électeurs et puis une autre majorité au niveau des grands électeurs. Et ça... politiquement, ça peut rappeler des souvenirs pas très très heureux.
Non, bien sûr.
Donc il faut faire
ajouter de la crispation
à cela. Bon, au niveau de la politique budgétaire, on n'en parle pas du tout. Et j'ai l'impression que, j'ai peut-être été provocateur. Sans doute a-t-on raison de ne pas en parler parce que le monde est tellement incertain aujourd'hui que le côté refuge des actifs américains, singulièrement des titres d'État, est, je crois, très présent encore. Et donc, ça va sauver une irresponsabilité en matière de gestion des comptes publics. Alors, que l'on comprend bien chez Trump, mais qui existe aussi chez Harris, en fait, qui a existé chez Biden. Biden, l'IRA, l'Inflation
Reduction Act.
Act, voilà. Ouais. Bon, c'est quand même mettre la caisse sur la table. Vous faites des investissements qui vont dans le bon sens. Je vous en paye un bon bout. Bon, donc, ça a choqué personne parce que c'était pour la bonne cause, mais en matière d'équilibre des finances publiques, c'est quand même moyen. Donc, les Américains jouent un peu avec le feu dans cette histoire en se disant on se fera financer soit par les étrangers, soit par la Fed. Très bien. Mais voilà, on paraît presque vertueux par rapport aux Américains. Ça, c'est quand même quelque chose auquel il faut être attentif. Et puis nous, qui sommes à la périphérie des États-Unis, il faut quand même être attentif à ce que sera la politique étrangère, à ce que sera la politique économique étrangère des États-Unis. Il règne tout de même un espèce de parfum plutôt nationaliste, isolationniste, chez tout le monde. Et donc, il faut bien voir quelles conséquences ça aura chez nous, sachant qu'on voit.
Et du point de vue de l'Europe, qu'est-ce qui serait mieux, Trump ou Harris, alors ?
C'est sans doute Harris, parce qu'elle est quand même plus internationaliste, si j'ose dire, que Trump.
Elle serait plus bienveillante vis-à-vis de l'Europe et du commerce extérieur, oui ?
Je pense qu'elle, dans ce monde compliqué, et je pense qu'au Département d'État, on le sait, les Américains sont certes le pays le plus puissant, mais ils ont besoin d'appui. Et alors, chez les démocrates, les Européens, certains pays d'Asie, sont des appuis très naturels. Et ça, ça ne sera pas remis en cause, je crois. Après, la qualité de l'écoute de ses alliés à Washington sera moyenne. Mais n'empêche que c'est mieux que celui qui dit « je mets la table par terre et on verra ce qui se passe ».
Ce qui nous oblige quand même à réagir, quoi.
Mais c'est
un aiguillon qui
en Europe,
pousse aussi la réaction de l'Europe dans un monde un peu plus
différent, quoi. Quand on voit l'état de la
politique
allemande, quand on voit l'état de la politique française, considérer qu'on va avoir une vraie capacité de réaction, c'est pas évident. Il y aura des initiatives au niveau de la Commission, mais ça ne suffira pas à nous faire bouger.
Merci beaucoup à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Hervé Gouletker, Senior Economic Advisor d'Accuracy, Thierry Guille, président de Raymond James France, et Thomas Vett, responsable Fixed Income chez Spirit Asset Management.